France Musique. Les grands entretiens, Laurent Villarem.
Je m'appelle Marc-André Dalbavie, je suis compositeur et donc j'écris majoritairement pour les formations symphoniques, les formations de musique de chambre et des opéras actuellement.
Musique est plutôt dans. Enfin, je cherche plutôt, vous n'allez pas être d'accord avec moi, à estomper les contours, en tout cas à agglomérer des choses différentes et hétérogènes.
Mais justement, c'est l'hétérogénéité qui est source de conflits et qui m'intéresse. C'est d'ailleurs le projet claudélien, qui chez lui est même un projet théologique, d'une certaine manière, car pour lui, la rencontre avec l'autre est cruciale, avec le prochain d'ailleurs, hein. Et c'est une rencontre qui n'est pas forcément bienveillante. C'est une rencontre qui est très souvent conflictuelle. Mais justement, il pense que le conflit est source de nouveauté, est source de nouvelle humanité pour lui. Et donc, c'est ce qui me différencie des spectraux, où on est dans la recherche de quelque chose d'homogène. Et on peut dire même dans le surréalisme, c'est la même chose. Il y a cette recherche d'homogénéité, ce que je ne recherche pas du tout. Je recherche de l'unité, ce qui n'est pas pareil. Et dans l'unité, je pense que plus on recherche de l'unité, en tout cas en musique, et plus on peut dissonner, vous voyez, rechercher de la dissonance, plus on peut rechercher de la friction, plus on peut rechercher de l'hétérogénéité.
Marc-André Dalbavie, vous cherchez souvent à créer des mondes à part entière, des univers autonomes presque, qui partent de l'existant. Par exemple, vous avez tout un cycle d'œuvres, The Dream of Unified Space, j'arrive toujours pas à le dire,
oui.
The Dream of the Unified Space, Antiphonie, Concertate al Suono, y compris même Mobile.
Mais est-ce que c'est pas le projet de la musique? Est-ce que la musique elle-même n'est pas dans cette recherche d'unité? À partir du moment où on fait de la musique, est-ce que on n'est pas naturellement engagé à unifier les mondes, mais à unifier ce qui diverge. L'harmonie, d'ailleurs, c'est quoi l'harmonie? Quand on apprend l'harmonie, évidemment, on apprend d'abord à enchaîner des accords, mais l'harmonie, c'est bien le fait de ne pas unifier ce qui se ressemble, mais c'est unifier ce qui ne se ressemble pas. Quelque chose qui est en harmonie et quelque chose qui est quelquefois très dissonant.
Vous multipliez d'ailleurs souvent les obstacles. Avec Double Jeu, il y a un orchestre classique et un orchestre chinois. Dans Antiphonie, il y a un orchestre devant et un orchestre derrière. Dans Concertate al Suono, il y a 8 ensembles, 8 pupitres disséminés dans tout l'espace. Ou encore votre première œuvre, qui part de ce principe-là, c'est Concerto pour violon, en 96, je crois, 94-95.
Oui, c'est ça, oui.
Ou alors vous mettez un violon au centre de la scène, un petit orchestre derrière et plein d'autres musiciens tout autour de la scène.
Oui, absolument. Mais là, il y a l'idée d'éclater la notion d'espace, vous voyez. Donc on retrouve le soulier de Satin.
Pour le réunifier après?
Non, pas forcément pour le réunifier, pour l'explorer plutôt. L'idée était de questionner la forme du concerto pour violon, dans sa frontalité. L'œuvre commence comme un concerto pour violon frontal. Et donc cette relation qu'a l'auditeur, parce que pour moi, évidemment, l'idée de l'auditeur reste importante dans la composition d'une œuvre. Pas du public, hein, je dis bien de l'auditeur, ce qui est une notion, on pourrait discuter de ça. Mais l'auditeur a tendance, évidemment, à s'identifier au violoniste, au soliste. Sa dimension individuelle, le fait qu'il soit face à l'orchestre, seul, soit à combattre, soit à s'allier. Et pour le concerto pour violon, c'est encore plus fort, parce que le violon est un instrument de l'orchestre, ce qui n'est pas le cas du piano, par exemple. Et donc, j'ai voulu questionner cette idée, c'est-à-dire, est-ce que l'idée du concerto pour violon pouvait tenir à partir du moment où la frontalité était détruite, où tout d'un coup, il y avait des musiciens placés autour du public qui déstabilisaient cette espèce d'émerveillement de la scène. Et donc, ça a été fait dans ce sens-là.
Il y a l'idée de composer l'espace.
Oui, alors, ou décomposer l'espace, d'une certaine manière. Alors, il y avait tout un courant dans la musique électronique d'exploration de l'espace. Par exemple, j'ai écouté des concerts du groupe de recherche musicale Radio France dans les années fin 70, ou justement même 80, où il y avait une dimension spatiale. Boulez lui-même a fait Répond, par exemple, qui travaille sur l'espace. Même je crois avoir écouté Rituel ou Domaine aussi, spatialisé. Donc il y a déjà des gens qui ont exploré l'espace, mais celui que j'ai voulu convoquer venait plutôt d'une influence des arts plastiques, qui est l'art in situ, dont l'auteur le plus connu, en tout cas l'artiste le plus connu, est Daniel Buren, avec les colonnes Buren au Palais Royal. Et l'idée de l'art in situ, ça n'est pas de travailler sur l'espace, sur un espace abstrait, c'est de travailler sur le lieu qui accueille l'œuvre d'art. C'est-à-dire que lorsqu'on met une œuvre d'art dans un lieu, est-ce que ce lieu interfère avec la création de l'œuvre d'art, ou est-ce qu'on met une œuvre d'art qui n'a rien à voir avec le lieu, ce qu'on fait habituellement, et on ne tient pas compte du lieu qui l'accueille? Enfin, c'est ce qu'on a fait à partir d'une certaine époque. Parce que si on voit tout l'art du 14e, 15e siècle en Italie, c'est de l'art in situ. Puisque les fresques étaient peintes dans des lieux particuliers et souvent elles intégraient la dimension du lieu. Il n'y a qu'à voir les Mantegna à Mantoue, par exemple, dans la chambre ducale, où on voit que le peintre a tenu compte de la pièce pour bâtir l'œuvre, et même la cheminée est intégrée dans l'œuvre picturale. Donc l'art in situ est à la fois assez ancien.
C'est aussi les hommes préhistoriques de Dordogne aussi qui faisaient ça.
Alors effectivement, l'utilisation des rondes bosses, c'est-à-dire de tout le relief de la pierre pour pouvoir sculpter les taureaux. Et dans la musique, on peut dire que la première musique française, c'est-à-dire Léonin et Perrotin, ont été faites à Notre-Dame, qui avait, j'espère qu'elle va retrouver, un écho et une résonance très très particulière. Et on sent bien que toutes les premières polyphonies, par exemple de Perrotin, si on prend le Videum Principes, les premières polyphonies sont des imitations, mais en fait ce sont des échos. Et on sent bien que c'est la dimension spatiale de la cathédrale qui lui a donné l'idée de superposer des voix et d'écrire des voix qui sont dans une sorte de... qu'on appelle maintenant une sorte d'écriture canonique, mais en fait qui sont des échos écrits. Et même la naissance de la polyphonie est in situ, en fait. Je suis pas sûr que qu'une musique purement de plein air aurait pensé, à moins d'être dans les montagnes, aurait pensé la polyphonie comme Perrotin l'a faite, et comme ensuite toute la musique polyphonique de Notre-Dame l'a déployée.
Même vous avez fait une pièce pour l'acoustique de l'auditorium de Frank Gehry à Los Angeles, c'est ça ?
Alors, ce n'est pas l'auditorium de Frank Gehry. Frank Gehry a fait un bâtiment là-bas qui se trouve à côté de la salle de concert de l'Orchestre de Cleveland. Et à l'époque, j'étais compositeur en résidence.
C'est à Cleveland, excusez-moi.
De l'Orchestre de Cleveland. Et donc, Frank Gehry, oui, ce n'est pas du tout Los Angeles. Et donc, pour l'inauguration, on m'a demandé d'écrire une œuvre qui puisse célébrer cette nouvelle architecture.
L'œuvre s'appelle Rocks Under the Water.
Rocks Under the Water, ça vient de Frank Gehry lui-même, qui décrit ce bâtiment comme de l'eau circulant à travers les rochers. Mm. Et donc j'ai pris le titre de la description, tout simplement, du bâtiment par Frank Gehry lui-même, et j'ai disposé les musiciens de l'orchestre de Cleveland dans des endroits dans tout le bâtiment, avec un système d'écoute les uns par rapport aux autres pour pouvoir jouer l'œuvre en fonction de ce qu'ils entendaient. Et donc, c'est une architecture assez intéressante parce qu'elle est presque labyrinthique d'une certaine manière. Et donc, le public qui rentrait dans ce bâtiment ne pouvait pas savoir qu'il y avait un orchestre qui jouait. Ils entendaient de la musique, ça pouvait être des haut-parleurs. Et c'est au fur et à mesure qu'ils découvrent le bâtiment, qu'ils voient que des musiciens jouent, parce que tout d'un coup, des éléments de l'architecture découvrent un quatuor à cordes, etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils découvrent le bâtiment, ils découvrent qu'ils sont dans un concert. Donc vous voyez, c'est tout ce principe d'in situ qui a été pour moi fondateur pour faire ces œuvres spatialisées.
France Musique, les grands entretiens de Marc-André Dalbavy.
Vous allez me dire que j'ai une obsession sur le fait que vous soyez vigneron, mais c'est un peu ce qui se passe pour le vin. On part d'un endroit et on essaye d'en faire aboutir quelque chose, avec la terre ou en tout cas l'endroit d'où il est.
Peut-être, en tout cas, il y a l'idée de la transformation. Et il y a un seuil. Puisque le jus de raisin devient vin, et il y a bien un moment où on perçoit que c'est du vin et plus du jus de raisin. Donc je pourrais aller dans votre sens. Effectivement, il y a un système continu, on est tout à fait là-dedans. Bon, mais là, on est plus dans l'élément purement naturel, où on va dire que celui qui fait le vin est moins celui qui le cultive que la nature elle-même. Car en fait, dans le vin, ce qu'on appelle le terroir est fondateur.
Et pour le terroir en musique.
Ce que
fait
un vigneron est quand même très minime par rapport à ce que produit le terroir.
Alors qu'un compositeur contrôle tout ?
Ben, un compositeur, oui. Enfin, il contrôle pas tout, évidemment, parce qu'après, il y a l'interprète qui est très important, voire aussi important que le compositeur. Mais en tout cas, l'univers qu'il compose est bien le sien propre. En tout cas, disons que tout ce que l'on peut trouver dans une terre doit se trouver en lui. À partir du moment où il compose, effectivement, il rentre dans une intériorité que l'agriculture vous permet pas.
Donc vous êtes plus compositeur que vigneron, voilà, c'est
ah oui, sûr. Oui, je suis plus compositeur que vigneron. Je suis d'ailleurs très modestement vigneron, voilà.
Nous avons parlé des superpositions de musique dans l'espace, entre guillemets. Et maintenant, je voudrais qu'on parle des superpositions de musique dans le temps, je veux dire, en termes de tradition, car vos œuvres mêlent souvent beaucoup de chants grégoriens, de souvenirs du passé, avec la modernité du XXIe siècle.
Oui, et même de musique extra-européenne. Vous avez signalé la pièce Double Jeu, où je suis allé étudier les instruments chinois à Pékin, d'ailleurs.
Et à la fin de l'œuvre, il y a une fusion entre les deux. Et c'est le plus beau passage de l'œuvre, d'ailleurs.
En tout cas, c'est un passage qui a beaucoup intéressé les musiciens, parce qu'ils s'écoutaient, ils étaient obligés de fusionner entre eux. Et donc, je me souviens que beaucoup de musiciens de l'Orchestre Paris me disaient que ça les passionnait vraiment d'essayer de fusionner avec des orgues à bouche, ça voulait dire de travailler sur des détimbrages de leur instrument pour arriver à se mélanger. Ça les passionnait. Certains m'ont révélé ça.
Excusez-moi, philosophiquement, c'est intéressant. C'est pas ce que vous cherchez. Bien sûr. Justement, c'est ce moment de fusion où chacun fait le chemin vers l'autre. Par exemple, on est obligé de se modifier pour rencontrer l'autre.
Oui. Alors, c'est pas forcément une philosophie voulue. C'est plus la conséquence d'une pratique qui fait que effectivement, on aboutit à la volonté de se rapprocher de quelque chose qui est différent. Mais ça, c'est toujours une chose qui m'a animé. Et pareil, l'intérêt que j'ai eu pour les musiques pygmées, par exemple, ou des œuvres que j'ai écrites ont été influencées par les musiques pygmées. Donc, effectivement, il y a un parcours dans le temps, c'est-à-dire le grégorien est une des musiques qui me fascine. Peut-être la musique qui me fascine le plus. Surtout lorsqu'elle est liée d'ailleurs au rite catholique ou au rite chrétien. Mais surtout catholique, puisqu'il était catholique à l'époque du grégorien. Il n'y avait pas encore la séparation.
Et excusez-moi, le but du rite catholique, c'est quoi? La fin, c'est de communier en Dieu?
Ben, c'est la deuxième partie, oui, de la messe. C'est-à-dire le moment où il y a la présentation du corps et du sang du Christ. Donc c'est le moment où, effectivement, l'incarnation se réalise. Un moment qui est sacré. Et lorsque l'on découvre la messe originelle, à travers des messes grégoriennes, par exemple, on est fasciné par la beauté du moment. Très souvent lié, d'ailleurs, à l'espace dans lequel c'est chanté. Quand on chante le chant grégorien dans une église, qui, à mon avis, devrait être à chaque fois le cas, selon la résonance et l'acoustique, il y a des bribes de polyphonie qui émergent, ce qui est très, très étonnant. Alors qu'on est face à une musique purement monodique. Voilà, donc ça, c'est toujours très présent dans ma musique.
Je voulais parler de ce rapport à la tradition, car l'une de vos œuvres les plus jouées, et qui devient un tube, je crois, c'est le concerto pour flûte. Je sais que c'est votre œuvre la plus fréquemment jouée, je crois, non ?
Oui, Je crois, mais je compte pas, mais oui, peut-être.
Oui, comment expliquez-vous le, vous avez réalisé d'autres concertos superbes. Donc, le concerto pour violon de 1994. Il y a un autre pour violoncelle qui date de 2008, je crois.
Oui.
Il y en a un autre pour piano, donc on en a parlé, 2005. Mais le plus joué, c'est celui pour flûte, qui est plus tard, non, 2006, je crois, 2006. Oui. Déjà, votre rapport au concerto. Donc là, l'orchestre n'est plus, il est sur scène normalement, on va dire, il n'est plus disséminé. Mais oui. En même temps, vous avez profité de toutes ces expériences de l'espace devant un orchestre frontal.
Tout à fait. C'est-à-dire, j'ai intégré les recherches que j'ai faites sur les spatialisations dans l'écriture de l'orchestration, dans l'écriture symphonique. Donc en fait, c'est ça le point important. Alors effectivement, ces concertos, c'est le concerto pour flûte, sans doute le plus joué. Je sais pas trop pourquoi. Ça, c'est difficile à expliquer. Comment une œuvre, tout d'un coup, les gens s'en emparent. Souvent, il y a plein de raisons. Il peut y avoir des raisons opportunistes aussi.
Peut-être la tradition française du concerto pour flûte.
Peut-être le fait aussi que les flûtistes. Il y a beaucoup de flûtistes dans les orchestres, donc déjà, si on prend pour la dimension américaine, beaucoup de solistes dans les orchestres ont des contrats où ils peuvent, ils doivent jouer des concertos. Alors je ne sais pas dans les orchestres en Europe si on a ces mêmes contrats. Donc déjà, ça veut dire que des flûtistes américains, pour eux, c'est intéressant de pouvoir jouer un concerto puisque c'est déjà dans leur contrat. Il y a aussi cette dimension-là qui rentre en ligne de compte que l'on n'a pas avec le piano, où là on a un pianiste seul, voilà, qui fait une carrière et qui s'approprie l'œuvre ou qui la commande, puisque là c'était presque une commande de Leif Ove.
Leif Ove Andsnes, le grand pianiste
norvégien. Absolument, norvégien. Donc là pour les solistes comme les pianistes, déjà le répertoire est très riche. Beaucoup de pianistes font leur vie déjà avec rien qu'avec le répertoire. Alors, le répertoire flûte est aussi important, mais on va dire que, comme concerto pour flûte, il y a beaucoup moins de concerto pour flûte disponibles au catalogue. Donc, déjà, les flûtistes ou d'autres instrumentistes, que ce soit les oboïstes, tout ça, sont intéressés d'œuvres nouvelles, de pouvoir agrandir le répertoire. Quand vous êtes violoniste, quand vous êtes pianiste, vous avez déjà un très très beau répertoire, très vaste.
Est-ce que votre concerto pour piano a une importance particulière pour vous?
Oui, parce que c'est le moment où j'ai décidé d'écrire pour l'instrument qui a fait de moi un musicien. Donc et j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter de le faire. Donc effectivement, c'est un concerto qui renvoie à mon adolescence.
C'est-à-dire?
Ah, mais
vous avez marché à la source de.
Oui, à la source.
D'une source oubliée.
D'une source oubliée, absolument. Mais elle n'était pas oubliée pour moi. Mais c'est un peu comme l'opéra, si vous voulez. J'ai voulu réexplorer le concerto en tant que tel. L'idée du concerto. Vous voyez, c'est l'idée d'in situ. C'est-à-dire, lorsque j'ai écrit des œuvres spatialisées pour des espaces particuliers, ce qui est le cas des œuvres d'orchestre dont vous avez signalé les noms. The Dream of Unified Space a été créé pour la salle de l'orchestre de Minneapolis, l'orchestre du Minnesota. Donc, c'est vraiment pour des salles précises, même si après on le joue dans d'autres salles. Mais je l'ai écrit pour des salles précises. Et donc, l'idée n'est pas de prendre la musique, de l'enlever du cadre traditionnel, c'est-à-dire de la mettre en plein air ou dans un lieu nouveau, et d'essayer de voir ce que cela pouvait provoquer comme changement. Non, l'idée pour moi est de réexplorer autrement les lieux qui existent déjà.
Exploser.
Et exploser si...
Vous avez un tempérament terroriste.
Si je peux y arriver. Mais donc c'est l'idée comment je vais réinvestir le concerto. Comment avec mon langage, mon imaginaire, je vais réhabiter un concerto.
Thank you.
Un extrait du concerto pour piano de Marc-André Dalbavy par Leif Hofer Hansnes, l'orchestre de la radio bavaroise est dirigé par Franz Welser-Möst. Prise de son Pierre Henry, mixage Valérie Lavalard, attaché de production Flora Sternadel, une émission réalisée par Lionel Quentin. C'est ainsi que se referme le quatrième volet de ces grands entretiens avec Marc-André Dalbavy. Suite et fin de ce portrait demain, à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur le site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.